Comment avez-vous finalement localisé Jacob?
Comme nous l'espérions. Il s'est mis à communiquer davantage, surtout par email. Ça nous a permis de suivre ses trajets à travers le sud des États-Unis. À la fin du 14e mois, nous avions la conviction qu'il s'agissait d'un chauffeur routier, d'un livreur, quelque chose de cet ordre. L'essentiel des messages que nous recevions étaient envoyés depuis des cybercafés, certains depuis des relais routiers, toujours à proximité de grands axes. Nous avons donc fait intensifier les patrouilles des polices d'État dans ces secteurs, faxé la photo de Flora à tous les grands relais routiers. Il s'agissait de faire monter la pression, mais pas trop non plus.
Pour éviter qu'il ne panique et se débarrasse d'elle.
Exactement. Et on s'est surtout concentré sur les cybercafés. Le 471e jour, il a envoyé un message dont nous avons pu établir qu'il venait du café d'un relais routier qu'il avait déjà utilisé une fois. Je me suis personnellement rendue sur place pour interroger les employés. Avec toutes ses cartes postales, ses emails, ses messages, Jacob en avait davantage révélé sur lui-même qu'il ne le pensait. À la seconde où j'ai commencé à décrire le genre d'homme que nous cherchions, le directeur l'a identifié. Jacob était un habitué, il s'arrêtait à ce relais au moins une fois par mois, sinon davantage. Le directeur ne connaissait pas son nom de famille, mais il pouvait décrire son camion. À partir de là, nous avons pu remonter la piste. Jacob Ness, délinquant sexuel fiché, qui avait déjà fait de la prison pour une agression sur une mineure de 14 ans. Soupçonné d'autres faits semblables. Travaillait à ce moment-là en indépendant pour plusieurs grandes sociétés de transport, conduisait un semi-remorque. Il n'a fallu que quelques heures à la police d'État pour repérer le camion garé à côté d'un motel à deux pas de l'autoroute. J'ai mobilisé les forces d'intervention et nous sommes passés aux choses sérieuses.
L'agent du FBI n'avait pas besoin d'en dire davantage. Didi imaginait parfaitement ce que Kimberly avait ressenti. La poussée d'adrénaline à quelques minutes de clore une affaire de première importance. Si on s'y prend bien, on sauve la fille et on chope le coupable. Mais au moindre faux pas, la fille se fait descendre, le type s'enfuit et s'affiche en l'air une vie, une famille et votre carrière par-dessus le marché. Oui, elle imaginait très bien. Qu'est-ce que vous avez fait?
Nous avons demandé à la direction de l'hôtel dans quelle chambre se trouvait Jacob et s'il était arrivé avec une femme. La chambre était située au bout de l'étage et n'avait pas de sortie sur l'arrière. Ça, c'était pour les bonnes nouvelles. Mais au rayon des mauvaises, nous avions des raisons de penser que Jacob possédait au moins une arme à feu et peut-être davantage. Et notre profileur, McCarthy, estimait que s'il était acculé, il risquait de tuer Flora et de retourner l'arme contre lui plutôt que de se rendre.
Suicide par police interposée.
Éventuellement. Mais seulement après avoir tué Flora. McCarthy pensait qu'à ce stade de la relation, Jacob devait être très attaché à elle. La nature de ses sarcasmes, son besoin de torturer la famille montrait qu'elle lui appartenait et qu'il ne renoncerait pas à elle sans se battre.
Un lien s'était formé. Didi réfléchit un instant à la question. Elle connaissait bien le syndrome de Stockholm, quoique davantage à travers des scénarios de films que par expérience personnelle. Rendu célèbre par l'affaire Patty Hearst, ce syndrome conduit une victime à s'attacher à son agresseur et à éprouver de la compassion et même un sentiment de loyauté à l'égard d'une personne qui lui a pourtant fait du mal. Mais Didi n'avait jamais songé que le processus inverse pouvait exister. Qu'au fil du temps et à force d'exercer une complète domination, le ravisseur pouvait se prendre d'affection pour sa captive. Jacob Ness était routier longue distance. Autrement dit, il avait voyagé seul pendant des années, isolé, jusqu'au jour où il avait kidnappé Flora Dean pour l'emmener avec lui. Après 472 jours de compagnonnage, Didi imaginait aisément qu'il ne serait pas disposé à renoncer à elle. « Est-ce que vous avez craint un syndrome de Stockholm ?» demanda-t-elle à Kimberly. « Que Flora ne voit pas votre intervention d'un bon œil ?» Didi perçut l'hésitation de son interlocutrice.
« Nous étions prêts à toute éventualité. »
finit par répondre Kimberly, ce que Didi prit comme un oui. Donc, vous aviez un individu armé planqué dans une chambre d'hôtel avec une victime qui avait subi un traumatisme prolongé. Comment vous y êtes-vous pris?
Nous avons laissé la main aux équipes d'intervention,
répondit Kimberly sans détour.
Ils ont balancé une demi-douzaine de bombes lacrymogènes par la fenêtre et ensuite ils ont forcé la porte.
L'agent du FBI marqua un temps.
Ils ont trouvé Jacob à terre. Neutralisé par les gaz. Il avait une serviette humide à côté de lui. Apparemment, il avait remarqué que des forces de police se mobilisaient à l'extérieur et il avait tenté de se préparer à l'assaut, mais il n'avait pas été assez rapide.
Et Flora?
Elle était assise par terre à côté de lui, avec une serviette humide nouée sur la bouche et le nez, et un pistolet.
Didi ouvrit de grands yeux. Ça, par exemple. Le pistolet de Jacob.
Voilà.
Est-ce qu'elle a menacé la brigade d'intervention?
Non. Elle avait le pistolet sur les genoux et elle caressait le visage de Jacob. Elle essuyait ses larmes.
Oh. Didi ne savait pas pourquoi, mais d'une certaine manière, cette image était encore plus dérangeante.
Quand je suis entrée dans la pièce, Jacob était conscient. Il parlait tout bas à Flora. Les gaz commençaient déjà à se dissiper, il fallait agir vite. Mais personne n'avait envie de bousculer Flora tant qu'elle avait le pistolet. Nous craignions, si nous lui faisions peur...
Qu'elle ne tire?
C'était un spectacle étrange. Il la suppliait. Jacob Ness, allongé par terre de tout son long, suppliait Flora de le tuer.
Didi en restait sans voix.
J'ai essayé d'attirer l'attention de Flora. Je l'ai appelée par son prénom. J'ai essayé d'obtenir qu'elle me regarde. Mais elle ne réagissait pas. Ni à mes sollicitations, ni à celles d'aucun autre agent. Toute son attention était focalisée sur Jacob. Elle lui caressait les cheveux, elle essuyait les larmes de ses joues. Elle avait l'air pleine de sollicitude, je dirais même tendre.
Didi connaissait les gaz lacrymogènes. Non seulement ils vous irritent les yeux, mais ils transforment votre nez, tout votre visage, en une fontaine de mucus. Jacob Ness devait être au supplice. Avoir désespérément envie d'eau pour se rincer les yeux, d'un mouchoir pour se dégager le nez. Mais il n'avait pas rendu les armes. Cet homme qui avait nargué la famille de sa victime et les enquêteurs pendant plus d'un an avait réuni ses dernières forces pour un barreau d'honneur. Et lui, que faisait-il?
Il n'arrêtait pas de parler à Flora, un vrai moulin à paroles. Et juste au moment où on se disait qu'il allait falloir agir dans un sens ou dans l'autre, Flora s'est penchée vers lui pour lui murmurer quelque chose à l'oreille.
Quoi?
Je ne sais pas. Flora ne l'a jamais révélé. Mais elle lui a parlé. Et Jacob Ness a fait une de ses têtes. On aurait dit qu'il était fou de terreur. Ensuite, Flora a pris le pistolet sur ses genoux et elle lui a tiré une balle. Une, 45 Magnum, dans la calotte crânienne. Efficace. Après, elle a lâché l'arme. L'équipe d'intervention l'a neutralisée. Rideau.
Didi est essoufflée.
Vous avez déjà entendu parler de l'attachement à l'agresseur, n'est-ce pas?
Reprit d'un seul coup l'agent du FBI.
Sans aller jusqu'aux victimes d'enlèvement, on voit ça tous les jours chez les femmes battues. Elles sont isolées, à la merci de leur époux dominateur, et elles vivent de violents épisodes de terreur abjecte, suivis d'excuses poignantes qui les épuisent encore plus émotionnellement. Le traumatisme devient en lui-même le fondement d'un puissant attachement. Comment les autres pourraient-ils comprendre ce qu'ils ont vécu ensemble? Cela devient une raison de plus qui incite la femme à rester, même quand son mari lui a fichu une énième dérouillée.
Je connais ce phénomène.
Je m'attendais à le rencontrer chez Flora Dane. Ça paraissait logique, après tout le temps qu'elle avait passé avec lui. Je n'arrivais même pas à obtenir qu'elle réagisse à son propre prénom. Au lieu de cela, elle disait s'appeler Molly, le nom que Jacob lui avait donné.
Je vois.
Ce type d'attachement se produit le plus souvent dans les cas où la victime est isolée et où le tortionnaire paraît tout puissant. À l'arrière de la cabine de Jacob, nous avons retrouvé un cercueil muni d'un cadenas. Il contenait des traces ADN et des cheveux de Flora.
Didi ferma les yeux. Pour être isolée, elle était isolée, reconnut-elle.
Jacob l'enfermait dans cette caisse, mais c'était aussi lui qui l'en sortait. Il l'affamait pendant de longues périodes, mais c'était aussi lui qui la nourrissait.
Comme ça, il était tout puissant.
Et c'est là que ça devient problématique. Il n'y a aucun doute que Flora présentait des signes d'attachement à l'agresseur. Or, on sait grâce à d'autres cas que ce syndrome pousse la victime à rester, alors même qu'elle pourrait s'enfuir.
Flora a eu des occasions de s'évader, mais elle ne les a pas saisies.
Nous avons appris que dans les derniers temps, elle accompagnait Jacob partout de son plein gré. Il pouvait la laisser seule à une table de restaurant ou dans une chambre d'hôtel. Elle restait, ce qui, vu de l'extérieur, donne l'impression qu'elle acceptait benoîtement son sort, qu'elle était une victime consentante. Mais quiconque a vécu une expérience d'attachement à l'agresseur vous dira que dans ces moments-là, elle était tout aussi contrainte que si elle avait été enchaînée physiquement. C'est toute la force de ce lien.
Je vois. Didi avait déjà entendu parler de ce phénomène. Mais il lui était difficile d'attribuer un tel degré de soumission à la Flora qu'elle avait rencontrée 48 heures plus tôt, celle qui avait tué Devon Golding.
Le syndrome de Stockholm peut aussi conduire une personne à accomplir des actes auxquels elle ne se serait jamais livrée en temps normal.
Patty Hearst qui fait feu avec sa carabine.
Il existe de nombreux cas avérés de victimes qui, le temps passant et à force de torture, sont devenues les complices de leurs agresseurs. Et en l'occurrence, nous avons retrouvé d'autres traces ADN que celles de Flora dans le cercueil. Plus précisément, nous avons retrouvé l'ADN de plusieurs femmes non identifiées.
Oh ! Didi ne voyait pas quoi dire d'autre. L'agent du FBI avait raison. Lorsqu'une victime d'enlèvement reste longtemps aux mains de ses ravisseurs, elle finit souvent par aider à en piéger d'autres. Il serait tentant de l'en blâmer, mais les psychologues n'ont pas la même analyse. Comme le disait Kimberly, l'attachement à l'agresseur a servi la victime aussi puissamment que la contrainte physique. Vous pensez que Jacob Ness a pu enlever d'autres femmes ?
Je pense que j'aurais bien aimé l'interroger sur ce point. En fait, plus nous fouillions dans son passé, plus nous avions de soupçons. Malheureusement, nous ne saurons jamais exactement ce qu'il a fait, combien de femmes il a pu violer et même assassiner.
Qu'en dit Flora ?
Elle n'en dit rien. Elle n'a jamais parlé de ce qui lui est arrivé. Au début, nous lui avons laissé du temps et de l'espace, sur les conseils du Dr. Keynes, pour ne rien vous cacher. Mais ensuite, nous savons que d'autres femmes que Flora ont séjourné dans cette caisse. Mais nous ne savons pas quand les indices sont arrivés là. Par exemple, il est possible que l'ADN des autres victimes ait été déposé dans le cercueil avant l'enlèvement de Flora et non après. Moyennant quoi, nous n'avions pas de motif justifiant une assignation à comparaître. Si elle ne veut pas parler, rien ne l'y oblige.
Vous pensez qu'elle couvre ce qu'elle-même a pu faire, sous la contrainte ou non ?
Je pense qu'il y a certaines questions que j'aimerais poser et auxquelles elle se garderait de répondre. D'autant que...
Kimberly s'interrompit de nouveau.
Ça peut rester entre nous ? À notre époque, ce n'est pas très bien vu d'accuser la victime.
Je vous écoute.
Quand j'ai escorté Flora hors de la chambre d'hôtel, elle s'est arrêtée pour se retourner vers le corps de Jacob. Elle n'avait plus la serviette à ce moment-là. Je pouvais voir son visage. Et une étincelle est passée dans son regard. On aurait cru voir un robot s'animer. Elle avait l'air triomphante.
Parce qu'elle venait de tuer son ravisseur, suggéra Didi.
Ou peut-être parce qu'elle venait de tuer la seule personne qui savait exactement ce qu'elle avait fabriqué depuis un an. Je peux vous dire une chose. Des dizaines, voire des centaines d'agents ont participé aux recherches qui ont permis de la retrouver. Et malgré cela, pour chacun de nous, 472 jours de la vie de Flora Dane restent un mystère absolu.